Bret Hart scène de la vie californienne. Bunder. Je n'ai jamais su comment il se fit que celui dont je vais raconter l'histoire inspira un attachement si intime dans ma famille. Ce n'était pas un chien dont l'aspect prévint beaucoup en sa faveur. Ce n'était pas même un chien qui eut pour lui les avantages de la naissance et de l'éducation. Sa généalogie était on ne peut plus obscure. Il pouvait avoir eu des frères et des sœurs, mais dans mes nombreuses connaissances de l'espèce canine, et j'en ai connu beaucoup, je n'ai jamais découvert aucune des particularités qui distinguaient Bunder de tous les chiens ses semblables. Il avait le corps allongé, les jambes de devant très distantes, les jambes de derrière, comme si la nature avait eu originellement l'intention de placer une troisième paire entre elles. Et il s'était laissé, mais mal à propos, persuadé d'y renoncer. Cette particularité avait un inconvénient très désagréable. Par une nuit froide, parce que, afin que Bunker pût entrer lui-même, la porte restait ouverte assez longtemps pour donner passage à deux ou trois chiens d'une longueur raisonnable. Telle était la conformation des pattes de Bunder que les orteils étaient considérablement tournés en dehors, et au repos, son attitude favorite rappelait celle de la première position qu'un maître de danse fait prendre à ses élèves. Ajoutez à ce portrait des yeux brillants, des oreilles qui semblaient appartenir à un autre chien, un museau symétriquement pointu qui s'adaptait à toutes les ouvertures comme un passe-partout, et vous avez Bunder tel que nous le connaissions. J'incline à croire que sa popularité était dû principalement à sa tranquille impudence. Son arrivée dans la maison fut celle d'un ancien membre de la famille qui, après avoir été absent pendant une courte période, revenait à son domicile et à sa société habituelle. La chose aurait paru toute simple à un pythagoricien, mais en admettant le dogme de la métempsycose, je ne puis me rappeler aucun membre défunt de ma parenté qui ait eu pendant sa vie le goût d'enterrer les os, amusement qui serait parfaitement compréhensible après la mort et qui était la grande faiblesse de Bunder. On l'avait découvert pour la première fois couché sur une paillasson dans un des chambres de l'étage supérieur, et ce fut lui qui parut le moins déconcerté de toute la famille. Et depuis ce moment, Bunder en devint un des membres reconnus, si bien qu'il jouit de privilèges refusés souvent aux êtres les plus intelligents et les plus estimés de son espèce, privilège qu'il s'attribua sans façon et sans contrainte de l'autre part. Le trouvelait-on blotti dans une corbeille à linge ou quelque article de notre garde-robe et de notre vestiaire? Avait-il changé de place sans que cette locomotion fût le fait d'aucun de nous? « Oh, c'est Bunder !» disait-on tout d'abord, enchanté que ce ne fût pas quelque chose de pire. J'ai parlé du plaisir qu'il trouvait à enterrer des os. Ce ne pouvait être un calcul pour lui d'économie, car il oubliait invariablement la localité de son trésor et multipliait dans le jardin les trous inutiles. Mais, quoique ce jardinage de Bunder ne continuât guère au perfectionnement des violettes et des marguerites, personne ne songeait jamais à l'en punir. « C'est Bunder !» disait-on, comme on aurait dit, c'est le destin. Bunder et destin devenus des synonymes. On pouvait en murmurer, mais il fallait subir philosophiquement l'inévitable Bunder. Toutefois, quoiqu'il ne fût pas un chien intelligent, ni un chien de salon, ni un chien de race. Bunder possédait quelques instincts d'un chien comme il faut, d'un chien gentleman. Quand il accomplissait le seul exercice auquel il avait été dressé, je ne sais par quel maître, et qui consistait à prendre l'attitude d'un mendiant appuyé sur ses jambes de derrière, ce qui le faisait aussi ressembler remarquablement à un pingouin, les étrangers, ignorants, qui se croyaient obligés en conscience de le récompenser, lui offraient des biscuits ou un gâteau. Malheureusement, il n'aimait pas les friandises. Quoique, pour jouer cette scène jusqu'au bout, il condescendit à les accepter et même à faire l'hypocrite démonstration de les avaler, se réservant, dès qu'on n'observait plus, d'aller déposer cette récompense dans le premier réceptacle à sa portée, quelquefois dans les caoutchoucs du visiteur. Pour tout ce qui n'exigeait pas la courtoisie, Plunder était sincère dans ses sympathies et ses antipathies. Par instinct, il avait l'aversion du chemin de fer. Quand le tracé de l'embranchement vint sillonner notre rue, Bunder maintint son attitude hostile, d'abord contre la pose des rails, et puis il protesta contre le cours des wagons de toute la puissance de ses poumons et de sa gueule. Il me semble le voir encore, le jour de l'inauguration de la ligne, saluer le premier train d'épouvantables clameurs et être rejeté à plusieurs mètres en arrière par le recul de chaque explosion de sa fureur. Bunder n'est pas le seul qui ait résisté au progrès de notre siècle et vécu assez longtemps pour voir l'innovation prospérer et même... Mais n'anticipons pas. Bunder avait précédemment protesté contre l'éclairage par le gaz et quoi qu'il eût passé tout un jour à chercher querelle aux ouvriers, négligeant ce jour-là d'enterrer ses os, qui blanchissaient au soleil, le gaz n'en fut pas moins introduit. L'aqueduc de Springwell avait aussi inutilement provoqué l'opposition bruyante de Brunner, qui pendant longtemps garda personnellement rancune au concessionnaire des travaux. Ces particularités paraissaient témoigner d'un caractère résolu et exprimer une idée réfléchie, une opinion arrêtée même. Et ce fut le texte d'un débat prolongé dans la famille. Et il en résulta, pour Bunder, l'addition d'une épithète à son nom. Nous l'appelâmes Bunder le conservateur, ce qui équivalait à la reconnaissance de son intelligence fatidique. Mais, quoiqu'il fût libre de suivre sa voie, cette voie n'était pas exclusivement ornée de roses sans épines. Sa sensibilité s'y heurtait, même quelquefois, à des orties. Quand certaines notes mineures s'échappaient du piano, Bunder en était toujours péniblement affecté, et il hurlait une remontrance. Et si par hasard, pour l'artiste et quelques visiteurs à l'oreille délicate, on le reléguait à l'arrière-cour, il ne fallait pas que la note provocatrice parvînt jusqu'au lieu de cette exclusion offensante, car il répondait en improvisant un long hurlement à l'adresse du pianiste. Mais nous étions accoutumés à Bunder, et comme nous aimions la musique, l'interruption du piano n'était pas de la longue durée. Un matin, Bunder était sorti de la maison avec un air de bonne humeur et pourtant à la gueule son os habituel, qui avait probablement l'intention d'aller enterrer. Le lendemain, on le releva sans vie sur la voie ferrée, écrasé par le premier wagon sorti de la gare.